Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revenons ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Giuseppe Tomazzi di Lampedusa, Le Guépard. Triste temps, Excellence. La voix du père Pirone résonna comme un écho à ses pensées. Coincé dans un angle du coupé, comprimé par la masse du prince et écrasé par son orgueil, le jésuite souffrait dans sa chair et dans sa conscience. En homme supérieur, il transposait immédiatement ses propres peines, toutes éphémères, dans le monde durable de l'histoire. « Regardez, Excellence !» Et il montrait du doigt les monts abrupts de la Consa d'Oro, encore clairs dans le crépuscule. Le long des pentes et sur les sommets brillait une quantité de feux que les troupes rebelles allumaient chaque nuit, comme pour proférer une silencieuse menace contre la ville royaliste et conventuelle. On aurait dit ces veilleuses qui luisent dans la chambre des grands malades durant les nuits d'agonie. « Je vois, mon père, je vois. » Et il pensait à Tancrède qui se tenait peut-être auprès d'un de ces feux maléfiques, attisant de ses doigts aristocratiques des braises qui se consumaient précisément pour la déchéance de ses mains-là. Vraiment, on peut dire que je suis un joli tuteur avec ce pupille qui fait toutes les bêtises qui lui passent par la tête. La route maintenant descendait un peu, on voyait Palerme toute proche, plongée dans l'obscurité. Ses maisons basses et resserrées étaient écrasées par la masse démesurée des couvents. Il y en avait des dizaines, tous immenses, souvent groupés par deux ou trois, couvents d'hommes ou de femmes, de riches ou de pauvres, de nobles ou de plébéiens. Couvent de jésuites, de bénédictins, de franciscains, de capucins, de carmes, de rédemptoristes, d'augustiniens. Au-dessus de tout cela, se dressaient des coupoles émaciées aux courbes incertaines, semblables à des seins vidés de leur lait. C'étaient ces couvents qui donnait à la ville entière son air sombre, son caractère hautain, et aussi cet aspect funèbre que la frénétique lumière sicilienne elle-même ne parvenait jamais à chasser. À cette heure, presque nocturne, les couvents étaient les despotes du panorama. C'était contre eux que s'allumaient les feux des montagnes, attisés par des hommes qui ressemblaient d'ailleurs à ceux qui vivaient derrière ces murs, fanatiques, solitaires, avides de pouvoir, c'est-à-dire, selon la tradition, d'oisiveté. Le prince laissait errer ses pensées tandis que les chevaux bais avançaient au pas dans la descente. Ses préoccupations étaient fort étrangères à sa véritable nature. Mais elle naissait de l'anxiété que lui causait Tancrède et d'une excitation sensuelle qui le poussait à se révolter contre les règles austères incarnées par les couvents. La route traversait les orangerais. Le parfum nuptial des fleurs anéantissait tous les autres, comme le clair de lune anéantit un paysage. L'odeur de cheval en sueur, l'odeur de cuir, l'odeur de prince et l'odeur de jésuite, tout était balayé par ce parfum islamique qui évoquait des houris et de charnelles outre-tombe. Le père Pironet en fut ému lui aussi. « Oh, quel beau pays ce serait, excellent ce sang !»«
Sans tous ces jésuites, » pensa le prince,
que la voix du prêtre avait arraché à ce doux présage. Mais il se repentit immédiatement de cette mauvaise pensée et sa grosse main asséna une tape cordiale sur le tricorne de son vieil ami. À l'entrée des faubourgs, près de la villa Eroldi, une patrouille arrêta la voiture. Des voix à l'accent pouillois et napolitain commandèrent « Halte !» Des baïonnettes démesurées fulgurèrent à la lueur oscillante d'une lanterne. Mais un sous-officier reconnut le prince, son haut de forme sur les genoux. « Toutes nos excuses, Excellence, passez !» Il fit même monter un de ses hommes à côté du cocher pour faciliter la traversée d'autres postes de garde. Le coupé alourdi roula plus lentement, contourna la villa Ranchibile, dépassa Torre Rosse et le jardin de Villa Franca, pénétra dans la ville par la porte de Maqueda. Au café Romres, les officiers des détachements de garde riaient et sirotaient d'énormes sorbets. Ce fut l'unique signe de vie qu'ils rencontrèrent dans la ville. Les rues étaient désertes. Seul y retentissait le pas cadencé des soldats de ronde, leurs bandoulières blanches croisées sur la poitrine. À droite et à gauche, éléphantesques, noirs comme la proie, plongés dans un sommeil qui ressemblait au néant, les couvents passaient l'un après l'autre. L'abbaye au mont, les stigmates, les porte-croix, les théatins.
« Dans 2 heures, je passerai vous prendre, mon père, bonne oraison. »
Et le pauvre père Pironet frappa tout confus à la porte de son couvent tandis que le coupé poursuivait son chemin. Ayant laissé sa voiture au palais, le prince partit à pied vers le but qu'il s'était fixé. Le trajet était court, mais le quartier mal famé. Équipé de pied en cap, ce qui prouvait qu'ils s'étaient échappés furtivement de leur bivouac, des soldats aux yeux vitreux sortaient des petites maisons basses aux balcons graciles, ornés de pots de basilic, dont la présence expliquait qu'ils aient pu entrer si facilement. De jeunes individus d'aspect sinistre portant de larges pantalons discutaient de cette voix de basse qu'ont les Siciliens irrités. On entendait l'écho lointain de coups de fusil échappés à quelques sentinelles nerveuses. Ce quartier dépassé, la rue longeait la cala. Dans le vieux port de pêche, les barques se balançaient à moitié pourries. Elles avaient l'aspect désolé de chiens galeux. « Je suis un pêcheur, je le sais. » Et doublement pécheur. Devant la loi divine et devant l'amour humain de Stella, il n'y a aucun doute. Demain, je me confesserai au père Pironet. Il sourit en pensant que cette confession serait superflue. Il était évident que le jésuite avait tout deviné. L'esprit d'argutie du prince prit le dessus ensuite. Je vais commettre un péché, cela est certain. Mais c'est justement pour ne pas pécher davantage, pour ne pas continuer à m'exciter, pour arracher cette épine de ma chair, pour ne pas être entraîné à des fautes plus grandes. Le Seigneur le voit bien. Un grand attendrissement envers lui-même le submergea. Je suis un pauvre homme. Un homme faible, pensait-il. Tandis que son pas puissant écrasait le pavé crasseux, je suis faible et personne ne me soutient. Stella, c'est vite dit. Le Seigneur sait à quel point je l'ai aimée. Nous nous sommes mariés à 20 ans maintenant
Elle est si tyrannique.
Trop âgée aussi. La sensation de faiblesse avait disparu. Je suis encore un homme vigoureux.
Comment pourrais-je me contenter d'une femme qui, au lit, fait le signe de la croix avant chaque étreinte et qui, au moment le plus émouvant, ne sait dire que « Jésus-Marie !»
Quand nous nous sommes mariés, quand elle avait 16 ans, cela m'exaltait. Mais maintenant... J'ai eu d'elle 7 enfants.
7 ?
Et je n'ai jamais vu son nombril. Est-ce juste ?
Je vous le demande à tous.
Et il s'adressait au portique de la Catena.
C'est elle, la pécheresse.
Cette découverte réconfortante lui redonna du cœur et c'est avec décision qu'il frappa à la porte de Marianina.
Deux heures plus tard, il était en voiture avec le père Pironet sur le chemin du retour.
Le père était bouleversé. Ses confrères l'avaient mis au courant de la situation politique beaucoup plus tendue qu'on aurait pu le croire dans le calme éloignement de la Villa Salina. On craignait un débarquement des Piémontais dans le sud de l'île, du côté de Siaca. Les autorités avaient remarqué dans le peuple une effervescence silencieuse. La pègre citadine attendait le premier signe de l'affaiblissement du pouvoir. Elle était prête à se ruer au pillage et au stupre. Les bons pères s'étaient alarmés. On avait fait partir pour Naples par le bateau postal de l'après-midi trois d'entre eux, les plus vieux, chargés des papiers du couvent.
Que le Seigneur nous protège et épargne ce très saint...
Je reprends.
Que le Seigneur nous protège et épargne ce très saint royaume.
Le prince l'écoutait à peine, plongé dans une sérénité rassasiée, maculée de répugnance. Marianina l'avait regardé avec ses gros yeux opaques de paysanne. Elle ne s'était refusée à aucun caprice. Elle s'était montrée humble et secourable. Dans un moment d'égarement complet, elle avait même crié « Mon gros prince !»
Lui en souriait encore satisfait.
C'était bien supérieur au « mon chat » ou « mon singe blond » qui ponctuait les extases homologues de Sarah, la petite gourgandine parisienne qu'il avait connue 3 ans auparavant, lorsqu'à l'occasion du congrès d'astronomie de la Sorbonne, on lui avait remis la médaille d'or. Bien supérieur à « mon chat », sans aucun doute. Bien supérieur surtout à « Jésus-Marie ».
Ce n'était pas un sacrilège au moins.
Une bonne fille, cette Marianina. Il lui apporterait 3 aunes de soie ponceau la prochaine fois qu'il irait la voir.
Mandari, maranzari, lo desiderio mio è chisto qua. Sicilia bella, Sicilia mia, ti penso sempre con nostalgia, e qualche giorno, Sicilia mia, vengo un di ti a non battere più. Ci sono tanti ricchizi in d'asta America, Sicilia mia. E qualche giorno, Sicilia mia, vengo un di ti a non battere più. Ti penso sempre, Sicilia mia. E qualche giorno, Sicilia mia, vengo un di ti a non battere più.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et nous revenons au roman de Lampedusa le guépard, après cette pause musicale. Mais le prince pensait que c'était triste aussi, cette jeune chair pétrie par trop de mains, cette impudicité résignée. Lui-même, qu'était-il ? Un porc, rien d'autre. Un vers qu'il avait lu par hasard lui revint à la mémoire. Il se trouvait dans une librairie parisienne, feuilletant un livre dont il avait oublié l'auteur, un de ces innombrables poètes que la France produit et oublie chaque semaine. Il revoyait la pile jaune citron des exemplaires invendus, la page aux lignes inégales, les vers qui concluaient un poème extravagant. Donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. Et tandis que le père Pironnet continuait à parler, le gros prince s'endormit dans une sorte d'euphorie désespérée, bercé par le trot des chevaux dont la croupe grasse reflétait la lumière dansante des lanternes. Il se réveilla au tournant que faisait la route devant la Villa Falconeri. « Celui-là aussi, c'est un fameux type. Il attise la flamme qui le dévorera. » Quand il se trouva dans la chambre conjugale, il fut ému et attendri à la vue de la pauvre Stella qui dormait en soupirant, les cheveux bien lissés sous son bonnet, dans l'immense lit de cuivre. « Elle m'a donné cet enfant. Elle a été à moi seule. » Une odeur de valériane flottait dans la chambre, dernier vestige de la crise de nerfs. Pauvre petite Stella, pensait-il avec remords, en escaladant le lit. Les heures passaient, il ne pouvait dormir. Dieu, de sa main puissante, mêlait trois feux dans sa pensée, celui des caresses de Marianina, celui des vers français, et celui menaçant des bûchers sur la colline. Vers l'aube, cependant, la princesse eut l'occasion de faire le signe de la croix. Le matin suivant, le soleil illumina un prince tout ragaillardi. Ayant pris son café, il se faisait la barbe devant la glace en robe de chambre rouge, fleurie de noir. Bendico reposait sa grosse tête appuyée sur la pantoufle de son maître. Tandis que celui-ci se rasait la joue droite, il vit apparaître dans la glace derrière lui le visage d'un jeune homme. Un visage maigre, distingué, sur lequel se lisait une crainte ironique. Il ne se retourna pas et continua sa besogne. « Tancrède, qu'as-tu fabriqué la nuit dernière ?»« Bonjour, mon oncle. » « Ce que j'ai fabriqué, pas grand-chose. Mais je suis resté avec mes amis. Une sainte nuit. Rien de commun avec celle de certaines personnes de ma connaissance qui sont allées s'amuser à Palerme. » Le prince s'appliqua à raser correctement le morceau de peau le plus délicat entre la lèvre et le menton. La voix légèrement nasale de son neveu était pleine d'une verve si juvénile qu'il était impossible de se fâcher. Mais il était licite de marquer quelque étonnement, dont Fabrice se tourna, la serviette sous le menton, et regarda son neveu, qui était en tenue de chasse, veste cintrée et jambière haute. « Et qui étaient ces personnes, s'il te plaît ?» « Toi, tonton, toi, je t'ai vu de mes yeux au poste de la Villa Eroldi pendant que tu parlais au sergent. C'est du beau, à ton âge, et en compagnie d'un très révérend père, les antiquités libertines. » Il était vraiment trop insolent. Il se croyait tout permis. À travers les fentes étroites des paupières, des yeux bleus, troubles, les yeux de sa mère, ses propres yeux, fixaient le prince, malicieux. Celui-ci se sentit offensé. Vraiment, ce petit ne connaissait pas les limites de la bienséance. Mais on n'avait pas le courage de le gronder. Du reste, Tancrède avait raison. « Et pourquoi es-tu ainsi vêtu ? Qu'y a-t-il, un bal costumé de bon matin ?» Le jeune homme reprit son sérieux. Une expression virile envahit de façon inattendue son visage triangulaire. « Je pars, tonton. Je pars dans une heure. Je suis venu te dire au revoir. » Le pauvre Salina sentit son cœur se serrer. « Un duel ?»
Un grand duel, mon oncle. Un duel contre le petit roi François, Dieu te bénisse. Je vais dans les montagnes.
Ne le dis à personne, surtout pas à Paul.
De grandes choses se préparent, mon oncle. Et je ne veux pas rester à la maison. D'ailleurs, si j'y restais, on me pincerait immédiatement.
Le prince eut une de ces visions brutales dont il était coutumier, une scène cruelle de guérilla, des coups de feu dans les bois, son Tancrède par terre, éventré, comme le pauvre soldat.
« Tu es fou, mon fils. Pas avec ces gens-là. Ce sont des bandits, des filous. Un Falconeri doit rester avec nous, du côté du roi. »
Les yeux de Tancrède redevinrent malicieux.
« Le roi, bien sûr. » Mais lequel ?
Le jeune homme retrouva cette expression sérieuse qui le rendait impénétrable et si cher à son oncle.
Si nous n'y sommes pas, nous aussi, ils fabriqueront une république. Si nous voulons que tout continue, il faut que d'abord tout change. Est-ce clair ?
Il embrassa son oncle, un peu ému. Au revoir. Et à bientôt. Je reviendrai avec le drapeau tricolore. La rhétorique de ses compagnons avait un peu déteint sur lui, et pourtant non, cette voix nasale avait une intonation qui démentait l'emphase.
Ah, ce garçon,
capable de toutes les bêtises, repoussant toutes les bêtises. Et ce Paul, qui pour l'instant devait être en train de surveiller la digestion de Guiscard, Tancrède était le vrai fils du prince. Celui-ci se leva en hâte, arracha sa serviette de son cou, fouilla dans un tiroir. « Tancrède, Tancrède, attends !» Il courut derrière son neveu, glissa dans sa poche un rouleau d'once d'or, lui serra l'épaule. Le garçon riait. « Voilà que tu subventionnes la révolution maintenant. Je te remercie, mon oncle. À bientôt. Embrasse, tante, pour moi. » Et il descendit l'escalier en courant. Il fallut rappeler Bendico qui suivait son ami en emplissant la maison de jappements joyeux. Il fallut finir de se raser, se rincer le visage. Le valet de chambre vint chausser et habiller le prince.
Le drapeau tricolore, c'est ça. Le drapeau tricolore, il se gargarise avec ses sornettes, les fripons. Mais que signifie cette petite enseigne géométrique, cette singerie à la française, si laide, à côté de notre drapeau immaculé avec son lys d'or? Et que peuvent-ils espérer d'un rapprochement de couleurs aussi criarde?
C'était le moment d'enrouler la monumentale cravate de satin noir. Opération délicate pendant laquelle il était bon de suspendre les méditations politiques. Un tour, deux tours, trois tours. Les gros doigts délicats composaient les plis, aplatissaient les coques, piquaient sur la soie la petite tête de méduse aux yeux de rubis.
« Un gilet propre, ne vois-tu pas que celui-ci est taché ?»
Le valet de chambre se souleva sur la pointe des pieds pour lui passer la redingote de drap marron. Puis il tendit un mouchoir parfumé de trois gouttes de bergamote. Don Fabrice mit lui-même dans sa poche ses clés, sa chaîne, sa montre, son argent. Il se regarda dans la glace. Rien à dire. Il était encore fort bel homme.
Antiquité libertine. Il a la plaisanterie lourde, Tancrède. Je voudrais le voir à mon âge, tout en os comme il est.
Son pas vigoureux faisait teinter les vitres des salons qu'il traversait. La maison était sereine, lumineuse, en ordre parfait. Mais surtout, elle lui appartenait. En descendant l'escalier, il comprit.
Si nous voulons que tout continue, il faut d'abord que tout change.
Tancrède était un grand homme. Il l'avait toujours pensé. Voilà, nous avons terminé pour ce soir cette suite du roman de Lampedusa, Le Guépard, que nous retrouverons dans nos prochaines lectures en liberté. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.